Chapitre 23. Plus près. Le steward de la JAL lui proposa un choix de cassette SimSteam. Une visite de la rétrospective Foxton au Tate d'août dernier. Une aventure historique filmée au Ghana, Ashanti. Les meilleurs moments du Carmen de Bizet, vu depuis un box privé de l'Opéra de Tokyo, ou 30 minutes du talk show de Tali Hicham, Top People. C'est votre premier vol en navette ? Mademoiselle Ofsky. Marley acquiesça. Elle avait donné à Paléologos le nom de jeune fille de sa mère, ce qui était sans doute idiot. Le steward eut un sourire compréhensif. Une cassette peut vous aider au décollage ? Carmen est très populaire cette semaine. De magnifiques costumes, apparemment. Elle secoua la tête. Pas d'humeur pour de l'opéra. Elle détestait Foxton et aurait préféré supporter la pleine puissance de l'accélération plutôt que de se taper Ashanti. Elle choisit la cassette d'Hicham par défaut, comme un moindre mal. Le steward vérifia le harnais de son siège, lui donna la cassette et un petit diadème jetable en plastique gris, puis s'en alla. Elle enfila l'ensemble d'électrodes, le brancha sur la coudoir du fauteuil, poussa un soupir et inséra la cassette dans le trou près de la prise. L'intérieur de la navette de la JAL disparut dans un éclat de bleu égéen et elle vit les mots « Top People » avec Tali Hicham s'élargir sur le ciel sans nuages en élégantes lettres capitales sans sérif. D'aussi loin que Marley s'en souvenait, Tali Hicham avait toujours été dans l'industrie de la steam, vedette sans âge apparue en même temps que ce nouveau médium. Marley se retrouvait désormais coincée dans le sensorium bronzé, souple et extrêmement confortable de la présentatrice. Tali Hicham rayonnait, elle respirait profondément avec aisance. Son élégante ossature propulsée par une musculature qui paraissait n'avoir jamais connu la moindre tension. Se connecter à ses enregistrements steam revenait à plonger dans un bain de parfaite santé, à sentir l'élasticité de sa voûte plantaire et ses seins qui pointaient contre le coton clair et soyeux de son chemisier sans fioritures. Elle était appuyée contre une balustrade blanche constellée de petits trous au-dessus du minuscule port d'une ville du Nil grec, surplombant des arbres en fleurs qui descendaient une colline aux constructions de pierres blanchies à la chaux entre lesquelles serpentait un étroit escalier. La corne d'un bateau résonna dans le port. « Les touristes se pressent de retourner à leur navire de croisière », dit Tali avant de sourire. Marley sentait la douceur des dents blanches de la star, la fraîcheur de sa bouche et la roche de la balustrade, rêche mais agréable, contre ses avant-bras nus. Mais un visiteur de notre île va rester avec nous cet après-midi, quelqu'un qu'il me tardait de rencontrer et qui, j'en suis sûr, va vous plaire et vous surprendre. Car il s'agit d'une personne qui se fait généralement rare dans les médias. Elle se redressa, se retourna et sourit au visage ravi et bronzé de Joseph Virek. Marley arracha les électrodes de son front et le plastique blanc de la navette de la JAL sembla se remettre violemment en place tout autour d'elle. Des signaux d'alerte clignotaient sur le panneau au-dessus d'elle et elle sentait une vibration qui montait crescendo. « Virek ?» Elle regarda le casque à électrode. « Bon, » dit-elle. « Après tout, vous êtes bien un people ?»« Pardon ?» L'étudiant japonais à côté d'elle la salua de la tête dans son harnais, étrange parodie de révérence. « Vous avez des problèmes avec votre steam ?»«
Non, non, » répondit-elle. « Excusez-moi. »
Elle remit les électrodes et l'intérieur de la navette disparut dans un bourdonnement de parasites sensoriels, un mélange discordant de sensations qui laissa aussitôt la place à la grâce et au calme de Tali Hicham qui avait pris la main froide et ferme de Virek et souriait en regardant ses doux yeux bleus. Virek lui rendit son sourire avec des dents très blanches. « Ravi d'être ici, Tali, » dit-il. Marley se laissa alors glisser dans la réalité de la bande, acceptant que l'enregistrement sensoriel de Tali devienne le sien. D'ordinaire, elle préférait éviter la steam car une partie de sa personnalité refusait de rester à ce point passive. Virek portait une chemise légère et blanche, un pantalon en toile remonté jusqu'en dessous des genoux et des sandales de cuir marron ordinaire. Elle ne lui lâcha pas la main pour retourner contre la balustrade. « Je suis sûre, dit-elle, que notre public aimerait... » La mer avait disparu. Une plaine bosselée recouverte d'herbes vertes et noires évoquant du lichen s'étendait jusqu'à l'horizon d'où seules dépassaient les silhouettes des flèches néo-gothiques de la Sagrada Familia de Gaudi. Le bord du monde était perdu dans un brouillard bas et lumineux et un bruit de cloches comme noyé résonnait sur la plaine. « Votre public n'est composé que d'une personne aujourd'hui.
dit Virek en regardant Tali Hicham à travers ses lunettes sans monture. « Bonjour, Marly. » Marly tenta d'atteindre les électrodes, mais ses bras étaient aussi lourds que de la pierre. La force G, le décollage de la navette depuis son pas de tir, il l'avait bloqué là. « Je vois, » dit Tali en souriant et en se penchant de nouveau contre la balustrade, les coudes sur la pierre chaude et rugueuse. « Quelle belle idée ! Votre Marly, Herr Virek, a vraiment beaucoup de chance. » Et Marly comprit qu'il ne s'agissait pas de Tali Hicham de Sensenet, mais d'une partie de la reconstruction de Virek, un point de vue compilé à partir de 10 ans de Top People. Et elle n'avait désormais plus le choix, aucune issue, à part l'accepter. L'écouter et rester attentive à ce qu'allait dire Virek. Le fait qu'il l'ait attrapé ici, coincé de cette façon, lui indiquait que son intuition avait vu juste, la machine, la structure, existait. Elle était réelle. L'argent de Virek était une sorte de dissolvant universel, capable de désagréger toutes les barrières à sa guise. « Vous m'avez l'air fâché, » constata-t-il, « et j'en suis désolé. D'après Paco, vous essayez de nous fuir, mais je préfère considérer cela comme l'élan d'une artiste vers son objectif. Vous avez perçu, j'imagine, un aspect de ma gestalte, et cela vous a fait peur. C'est compréhensible. » Cette bande a été préparée 1 heure avant le décollage prévu de votre navette depuis Orly. Nous connaissons votre destination, évidemment, mais je n'ai aucune intention de vous suivre. Vous accomplissez votre travail, Marly. Je regrette simplement que nous n'ayons pu empêcher la mort de votre ami, Alain. Mais nous connaissons désormais l'identité de ces assassins et leurs commanditaires. Les yeux de Tali Hicham, devenus ceux de Marly, fixait les pupilles de Virek d'où émanait une énergie bleue. « Alain a été tué par des hommes embauchés par Maas Biolab, » poursuivit-il. « Et c'est Maas qui lui a fourni les coordonnées de votre destination actuelle. Maas qui lui a donné l'hologramme que vous avez vu. Mes rapports avec Maas Biolab ont toujours été ambivalents, pour le moins. Il y a 2 ans, une de mes filiales a tenté de les racheter. La somme en jeu aurait eu des conséquences sur l'économie mondiale. Ils ont refusé. » Paco a établi qu'Alain est mort parce qu'ils avaient découvert qu'il comptait vendre à un tiers l'information qu'il lui avait fournie. Il fronça les sourcils. Une grosse bêtise de sa part parce qu'il ignorait la nature du produit qu'il proposait à la vente. Elle se dit que cela ressemblait bien à Alain et une vague de compassion la submergea. Elle le revit recroquevillé sur l'affreuse moquette, la colonne vertébrale déformant le tissu vert de sa veste. Il me faut vous avouer, je crois que... ma recherche du fabricant de la boîte n'a pas que des visées artistiques, Marly. Il retira ses lunettes et les frotta avec un pan de sa chemise blanche. Elle trouva un côté obscène à l'urbanité délibérée de ce geste. J'ai des raisons de croire que le concepteur de ces artefacts pourrait m'offrir la liberté, Marly. Je ne suis pas en forme. Il remit ses lunettes en ajustant soigneusement la monture en or sur ses oreilles. La dernière fois que j'ai demandé un visuel de la cuve où je me trouve, à Stockholm, on m'a montré quelque chose qui ressemble à une remorque de camion reliée à toutes sortes de tuyaux et de tubes. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas, Marly, pour la quitter, ou plutôt, pour quitter le chaos cellulaire qu'elle contient, dit-il avec son fameux sourire. Et les yeux de Tali Marly se tournèrent vers l'étendue de lichen sombre et les tours lointaines de la cathédrale égarée. « Vous avez perdu connaissance !» expliquait le steward tandis que ses doigts bougeaient sur la nuque de Marly. « Cela arrive fréquemment, et nos ordinateurs médicaux nous indiquent que vous êtes en parfaite santé. Nous vous avons toutefois appliqué un dermadisque pour remédier au syndrome d'adaptation dont vous risquez de souffrir avant l'arrimage. » Il retira la main de son cou. « L'Europe après la pluie, » dit-elle. « Max Ernst. Le lichen... » L'homme baissa les yeux sur elle, le visage désormais vif et empreint d'un tracas professionnel. « Pardon, vous pourriez répéter ?»« Désolé, » s'excusa-t-elle. « Un rêve. Nous sommes arrivés au terminal ?»« Plus qu'une heure, » dit-il. Le terminal orbital d'Air Japan était un tore blanc parsemé de dômes et entouré des ouvertures ovales sombres des quais d'arrimage. L'écran au-dessus du filet G de Marly, même si la notion de dessus avait temporairement perdu son sens habituel, affichait une magnifique animation du tore en rotation accompagnée d'une série de voix qui annonçait, en 7 langues, que les passagers de la navette 580 de la JAL du terminus Orly 1 débarqueraient dès que possible. La JAL s'excusait du retard dû à des réparations de routine concernant 7 des 12 quais. Marly s'enfonça dans son fil léger. Elle voyait désormais la main invisible de Virek partout. « Non, songea-t-elle, il doit bien y avoir un moyen. Je veux m'en sortir encore quelques heures de liberté et j'en aurai fini avec lui. Au revoir, Herr Virek, je retourne au pays des vivants contrairement à ce pauvre Alain. Mort parce que j'ai accepté votre offre d'emploi. » Elle cligna des yeux lorsque la première larme arriva. Puis, observa aussi fascinée qu'une enfant la minuscule sphère flottante qu'elle était devenue. Et Maas, se demanda-t-elle, qui était-il ? Virek affirmait qu'ils avaient assassiné Alain, qu'Alain travaillait pour eux. Elle avait de vagues souvenirs de reportages dans les médias en rapport avec la nouvelle génération d'ordinateurs conçus par des procédés au nom sinistre qui voyaient des cancers hybrides immortels engendrer des molécules sur mesure que l'on intégrait à des circuits imprimés. Elle se rappelait désormais que Paco lui avait dit que l'écran de son téléphone modulaire était un produit Maas. L'intérieur du tore de la JAL était si fade, si banal, si semblable à un autre aéroport bondé, qu'elle manqua d'en rire. Il percevait la même odeur de parfum, de nervosité et d'air trop climatisé, et le même fond de conversation. Avec une gravité de 0,8, elle aurait facilement pu porter une valise, mais elle n'avait que son sac à main noir. Elle prit ses billets dans une de ses poches antérieures à fermeture éclair et vérifia le numéro de la navette qui faisait la correspondance en le comparant aux colonnes de chiffres alignées sur l'écran mural le plus proche. Il lui restait 2 heures avant le départ. Malgré ce que Virek racontait, elle était persuadée que sa machine était déjà à l'œuvre en train d'infiltrer l'équipage de la navette ou ses passagers, le remplacement facilité par un afflux d'argent. Il y aurait des maladies de dernière minute. Des changements de destination, des accidents. Elle passa le sac sur son épaule, marcha sur le sol concave de céramique blanche comme si elle savait où aller ou qu'elle avait un plan. Mais avec la certitude croissante, à chaque pas, qu'il n'en était rien. Ses 12 yeux bleus la hantaient. « Allez au diable !» dit-elle. Et un homme d'affaires russe aux joues flasques en costume Ginza sombre renifla et leva son fax d'info pour la tenir à l'écart de son monde. Alors, j'ai dit à cette connasse que si elle n'envoyait pas les isolateurs optiques et les boîtiers de diagnostic au Sweet Jane, je lui collerais le cul à la cloison avec de la pâte à joint. Énorme éclat de rire. Et Marly leva les yeux de son assortiment de sushis. Les 3 femmes assises étaient séparées d'elle par 2 tables vides. Et la leur débordait de canettes de bière et de plateaux de polystyrène tachés de sauce soja marron. L'une d'entre elles rota bruyamment et prit une grosse gorgée de bière. Et elle l'a pris comment, du coup ? Rez ? Ce qui les fit toutes s'esclaffer de nouveau. Celle qui avait d'abord attiré l'attention de Marly posa la tête sur ses bras et rit jusqu'à s'en faire trembler les épaules. Marly observa le trio en se demandant qui elles étaient. Le calme revint un peu et la femme qui avait parlé la première se redressa en essuyant des larmes au coin de ses yeux. Elles étaient toutes passablement ivres, estima Marly, jeunes, bruyantes et d'allure peu commode. Celle qui venait de pleurer de rire était mince, le visage étroit, avec d'immenses yeux gris et un nez fin et droit. Ses cheveux coupés courts, à la garçonne, arboraient une impossible teinte argentée, et elle portait une veste en toile sans manches, trop grande et couverte de poches remplies de boutons et de bandes rectangulaires de velcro. Le vêtement ouvert dévoilait à Marly un petit sein arrondi qui semblait enrobé par un soutien-gorge en tissu filé rose et noir. Les 2 autres étaient plus âgées et de plus forte carrure. Les muscles de leurs bras nus bien dessinés dans la lumière sans source visible de la cafétéria du terminal. La femme aux cheveux courts haussa les épaules sous la veste trop ample. Et je vous parie qu'elle ne le fera même pas, dit-elle. Une de ses amies rit de nouveau avec moins de passion, puis elle consulta un chronomètre riveté à un large bracelet de cuir. Décollage en vue, dit-elle. Un trajet jusqu'à Zion, puis 8 nacelles d'algues pour les Suédois. Elle repoussa sa chaise, se leva, et Marly put lire l'inscription brodée en travers des épaules de sa veste de cuir noir. O'Grady Wajima, le Edith S, transport interorbital. La femme près d'elle se leva à son tour et releva la ceinture de son jean baggy. Sérieux, Rez, si tu commences à laisser cette pétasse te niquer sur ses envois, ça va se savoir. Pardon, dit Marly en s'efforçant d'empêcher sa voix de trembler. La femme à la veste noire se tourna et lui lança un regard noir. « Ouais ? Elle l'examina des pieds à la tête sans sourire. « J'ai vu votre veste et le nom Edith S. Il s'agit d'un vaisseau, un vaisseau spatial ?»«
Un vaisseau spatial ?»
La femme près d'elle haussa d'épais sourcils.
« Ah ouais, chérie, un vaisseau spatial, vrai de vrai.
C'est un remorqueur, » dit la femme à la veste noire avant de se retourner pour partir.
« J'aimerais vous engager, » annonça Marley.
« M'engager ?» Elle la regardait toutes désormais, leur visage dénué d'expression.
« Comment ça ?»
Marley fouilla au fond du sac à main noir bruxellois et en sortit la liasse de nouveaux yens que Paléologos, l'agent de voyage, lui avait rendue après l'avoir amputée de sa commission.
« Je peux vous donner ça. »
La fille aux cheveux courts et argentés siffla doucement. Les femmes échangèrent des coups d'œil. Celle à la veste noire haussa les épaules.
« Merde alors !» dit-elle. « Où vous voulez aller ?
Sur Mars ?» Marley plongea de nouveau une main dans son sac et en tira le morceau bleu du paquet de Gauloises plié. Elle le tendit à la femme qui le déplia et lut les coordonnées orbitales qu'Alain y avait écrites au feutre vert.
« Bon, » dit la pilote, « c'est un petit trajet pour une telle somme. Mais O'Grady et moi devons être à Zion à 23h00 GMT.
Un contrat.
Et toi, Rez ?»
Elle tendit le papier à la fille assise qui le lut, leva les yeux vers Marley et demanda
« Quand ?»«
Là. »
répondit Marley, tout de suite.
La fille s'éloigna de la table, les pieds de sa chaise claquèrent contre la céramique, et un pan de sa veste s'écarta pour dévoiler ce que Marley avait pris pour le tissu d'un soutien-gorge rose et noir, était en fait une rose tatouée qui recouvrait entièrement son sein gauche.
« C'est parti, camarade !
À boule le fric !»«
Ça veut dire qu'elle veut l'argent d'avance, » dit O'Grady.
« Je tiens à ce que personne ne sache où nous allons, » déclara Marley. Les trois femmes éclatèrent de rire.
« Tu es bien tombé alors, »
dit O'Grady. Et Rez sourit.